morning edition from NPR News.
That meeting sounds in the house. I
am ready to go to Paris.
Como se get on the radio?
France Inter. Le 18-20.
On a choisi le mardi au mardi pour compter les jours qui nous séparent de l'élection américaine de 2020. Après tout, c'est logique, ce mardi qui dira si Donald Trump enchaîne sur 4 nouvelles années au pouvoir, celle ce mardi qui réinstallera peut-être un démocrate ou installera peut-être une femme. Tout est ouvert évidemment à l'heure où on se parle, mais ça vaut le coup de s'y arrêter quand même et on y va dans un instant. Le bruit du monde est en Palestine dans un champ d'olivier avec des Palestiniens et des volontaires israéliens. Et vous verrez comment ça se termine. Le bruit du monde est sous les radars avec Amélie Perrier. Avec le procès d'Aube Dorée, la mort d'un défenseur de l'Amazonie et une tasse de thé aussi. 18h50, passons genre dans le monde et Julia Foyce où il est question d'interdire un mot et vous verrez lequel. 18h55, le monde à l'envers et Claude Guibal au Sahel ce soir qui décidément cherche les moyens d'arrêter les djihadistes. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Laurence Nardon.
Bonsoir.
Vous dirigez le programme Amérique du Nord à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. On ira faire tout à l'heure un tour dans l'Oklahoma d'ailleurs, je vous le dis d'emblée. Alors je le disais, on a choisi le mardi à mardi parce qu'après tout c'est le mardi qu'on vote. Et si on regarde un peu ce camp démocrate, on a l'impression un an avant qu'il commence doucement à s'éclaircir, un peu seulement. Le dernier parti, c'est Beto O'Rourke, dont l'Amérique, c'était démocrate bien sûr, s'était amouraché. Et au fond, ce qui m'est venu, c'est qu'on a... On a très vite envie de s'amouracher d'un démocrate, au fond, aux États-Unis. On a eu envie de s'amouracher d'un démocrate. Et on est très vite tombé en désamour, comme si, au fond, on savait pas qui on cherchait dans le camp démocrate, en fait.
On n'est pas les seuls, parce que le camp démocrate aux États-Unis, aujourd'hui, se cherche.
Oui,
parce qu'il sort de l'ère Clinton. Mmh. Et il faut à la fois qu'il trouve les nouvelles générations qui n'ont pas pu émerger pendant toute l'ère Obama, parce que finalement, la route était uniquement réservée à Hillary Clinton. Mmh. Et donc, il n'y a pas eu de tri dans des nouvelles générations. Mmh. Et d'autre part, il faut aussi faire le choix des idées. Et on a aujourd'hui un parti démocrate qui est dans une recherche idéologique vraiment tous azimuts sur les questions économiques, mais aussi sur les questions sociales et aussi sur l'attitude à avoir par rapport au président Trump.
Alors justement, est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à le faire très vite, peut-être même plus vite que lors d'une élection, j'allais dire habituelle, pour que l'adversaire soit très très clair, pour qu'on sache très très bien sur quoi on va se battre contre ce Donald Trump qui est pour l'instant très ancré. Est-ce qu'on se dit qu'ils vont aller plus vite? On parlait de Beto O'Rourke qui est parti, on se pose des questions sur Kamala Harris. Au fond, est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à faire le ménage entre eux très vite, en fait, ces démocrates?
Ben oui, mais ils vont pas pouvoir le faire parce qu'il y a des procédures qui sont inscrites.
Ils peuvent abandonner. Ils peuvent aussi décider d'abandonner la course.
Ils sont plus que 17 dans la course. Ils étaient 23 à un moment. Donc bon, mais ça va lentement. Mais ce qui risque de se passer, c'est que beaucoup d'entre eux qui continuent à avoir des financements de leurs sponsors, vont attendre jusqu'aux primaires proprement dites, qui est un processus très formalisé et qui commence en février.
Donc on attend la première primaire de l'Iowa pour commencer à voir ce qui se passe dans ce paysage.
Et puis après, il y a le Super Tuesday qui est en mars. Je pense que la plupart des candidats, enfin, bon, certains vont encore tomber certainement, mais je serais surprise qu'il ne soit plus que 3 ou 4 en février. Je pense qu'ils seront encore beaucoup plus.
Est-ce que c'est suicidaire face à un Trump, cette attitude, ou pas? Ça a toujours été le cas pendant les élections, mais celle-là peut-être est particulière.
Oui, cette élection-ci, enfin dans un an, est particulière parce que les enjeux face à Trump sont très importants. On pourra y revenir, mais en même temps, un parti qui cherche sa ligne idéologique, c'est pas une mauvaise chose qu'il y ait des débats et peut-être qu'ils pourront tomber sur quelque chose qui satisfait leurs électeurs, ce qui est pour l'instant pas évident.
Non, et au fond, on a l'impression que c'est par défaut qu'ils finissent avec les trois qui sont les plus connus en fait, Biden, Sanders et Elizabeth Warren. Alors, Biden et Sanders, oui, Elizabeth Warren un peu moins, mais enfin, les démocrates la connaissent. On a l'impression qu'on atterrit finalement vers les noms qui nous rassurent parce qu'on les connaît, en fait.
Bah, les trois septuagénaires. Non, ouais, en plus, réalité, ces trois noms, ça tombe bien que ce soit eux qui se détachent parce qu'ils représentent les trois courants principaux du parti sur les questions économiques. On a donc Joe Biden, ancien vice-président d'Obama, qui est le modéré, celui qui est dans le logiciel un peu à l'ancienne, libéral sur les questions économiques. On a Sanders, qui est déjà connu, parce qu'il a fait cette campagne très réussi, même s'il a perdu en 2016, sur un programme clairement socialiste, il le dit lui-même, c'est très fort aux États-Unis, c'est un programme anticapitaliste. Et puis, Elizabeth Warren, la plus jeune des trois.
À 70 ans.
Oui, qui fait une campagne pour un capitalisme juste. C'est-à-dire qu'elle, elle veut revenir à ce qui se passait aux États-Unis entre les années 30 et les années 80, avant le détricotage néolibéral. Elle veut que le pays offre de nouveau des chances de s'enrichir aux classes moyennes qui aujourd'hui sont dans... se sentent trahies.
Le rêve américain accessible à tous au fond, tel qu'on le racontait dans les années effectivement 40 et 50 à
Exactement.
Cette période-là.
C'est ce que propose Elizabeth Warren.
Alors justement, tiens, moi je voudrais qu'on aille faire un... On va y retourner à Elizabeth Warren, évidemment. Je voudrais qu'on aille faire un tour dans cette gauche américaine qui a peut-être du mal à savoir où elle met les pieds. Et assez paradoxalement, c'est dans l'Oklahoma qu'on va aller la chercher. C'est pas un endroit où on trouve le plus de gauche américaine, mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Vous savez qui est Woody Guthrie, Laurence Nardon ?
Oui, le musicien.
Eh ben oui, et tout le monde connaît en fait ça.
This land is your land, and this land is my land. This land is your land, enregistré en 1944 par Woody Guthrie, résonne encore 75 ans plus tard dans les rues d'Okima, petit patelin de 3000 habitants qui a vu naître et grandir le chanteur de folk qui aujourd'hui encore fait figure d'icône pour la gauche américaine. Un petit musée lui est consacré. Ici, une guitare qui lui a appartenu. Tom Denis fait visite.
Il parlait au nom des pauvres, ceux qui travaillent dans les champs, les classes populaires. Et cette chanson, This Land Is Your Land, rassemble toute la nation, peu importe de quelle partie du pays vous venez. Vous êtes un Américain. Ce pays est ton pays, pas celui du gouvernement, c'est le tien.
Collé au musée, ce petit café où il n'y a pas grand monde, mais il paraît qu'il faut venir en juillet, au moment du festival Woody Guthrie. Et là, c'est autre chose. La patronne s'appelle Cherry, née et élevée à Okima. Elle pense que le message de Woody Guthrie est plus que jamais actuel.
À l'époque où Woody Guthrie habitait ici, les habitants disaient de lui que c'était un communiste. Donc on ne le respectait pas trop. Mais maintenant, les gens d'Okima comprennent mieux ce qu'était la vision de Woody. Oh, je pense que ça le rendrait malade de voir à quoi ressemble l'Amérique aujourd'hui. Les riches deviennent plus riches et disent aux pauvres d'aller voir ailleurs. Bon, vous l'avez compris, j'aime pas trop notre président.
En 2016, à la dernière présidentielle, l'Oklahoma avait voté à 65% pour Donald Trump. Okima est plus à gauche et Jenny, attablée à l'auberge de la ville, se dit par exemple qu'elle voterait bien l'an prochain pour Elizabeth Warren ou Bernie Sanders.
Bon, je ne me considère pas comme une marxiste et je ne pense pas que Woody Guthrie en était un non plus. Mais je crois que le capitalisme sans aucune régulation, ça ne marche pas. Je suis plus capitaliste que certains démocrates, mais je pense quand même que c'est hors de contrôle.
Woody Guthrie, mort en 1967, avait fini par quitter cet Oklahoma conservateur et républicain pour s'installer en Californie, puis à New York. C'est là d'ailleurs qu'un certain Fred Trump, promoteur immobilier peu scrupuleux et père de l'actuel président, lui avait inspiré cette chanson.
I don't like the way Mr. Trump is treating me.
On se faisait la réflexion en écoutant le reportage Laurence Nardon. Moi, je trouve que c'est un pays triste qui a une référence socialiste qui, au fond, enfin en tout cas très à gauche, qui est au fond si lointaine. Ça dit aussi leur difficulté terrible à choisir quelle est la ligne qui est la leur, en fait.
Ben, ce qui est certain, c'est que aujourd'hui aux États-Unis, on est dans un pays extrêmement inégalitaire qui a vraiment trahi les promesses du rêve américain, comme vous disiez tout à l'heure, et donc les Warren et les Sanders n'ont aucun mal à tenir ce discours. Et d'une certaine manière, Trump le tient aussi. Parce qu'en fait, en 2016, et là encore, Trump, il tient un discours populiste de gauche, on va dire, en faveur des classes moyennes, même si, dans les faits, sa réforme fiscale est pas exactement, est un peu contradictoire avec ce discours, si vous voulez. Trump est contradictoire, ça c'est clair.
Alors, et en toute chose d'ailleurs, Elizabeth Warren, un dernier mot sur elle quand même, qui monte, qui fait pas forcément l'unanimité, qui a dégainé son plan santé dont le coût est de 20 000 milliards de dollars, ce qui est quand même une grosse somme, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle va faire peur à des gens, cette femme, en fait, au fond. Et la crainte, c'est peut-être celle-là.
Oui, alors là, elle a rebaissé dans les sondages. Les sondages, aujourd'hui, sont extrêmement volatiles entre les trois principaux démocrates. Mais c'est vrai que Elizabeth Warren a passé les trois derniers mois à faire le tour des caciques du Parti démocrate, mais aussi de Wall Street et de tous les aussi les collèges africains-américains pour rassurer les gens. Parce qu'en fait, elle sait très bien que son programme, qui est très sérieux, très fouillé, très bien étudiée, va faire peur aux financiers parce qu'elle veut réguler Wall Street. Et donc, comme elle a prévu ce problème, elle passe son temps à aller les rassurer. Je ne suis pas sûre que ça marche en fin de compte, mais on verra. Pour l'instant, aujourd'hui, c'est Biden qui mène à l'échelle nationale, ce qui ne veut pas dire grand-chose.
Absolument, puisque après, ça se passe effectivement d'État en État. Il y a Autre chose, en ce moment, j'ai lu que David Plouffe, qui a été l'ancien conseiller de Barack Obama pendant la fameuse première campagne, avait mis beaucoup d'argent pour notamment inonder les réseaux sociaux et des choses comme ça. Est-ce qu'on est aussi en train d'essayer de voir comment on se bat chez les démocrates pour se battre méthode contre méthode ? Il faut quelqu'un pour être capable de contrer l'extrême présence de Donald Trump sur les réseaux sociaux, et pour l'instant, on les voit très peu, les démocrates, là-dessus.
Eh bien, ce qui est intéressant dans les campagnes américaines depuis plusieurs 10, 20 ans, c'est que à chaque cycle présidentiel, il y a un parti qui semble être en avance sur l'autre en ce qui concerne l'utilisation des réseaux sociaux. Donc c'est clair qu'en 2000...
C'était vrai d'Obama dans sa première campagne.
Et puis même de Howard Dean en 2004, ça remonte. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en 2016, les républicains avaient un coup d'avance pas très légal et pas très éthique, surtout, avec leur emploi de cette firme qui s'appelait Cambridge Analytica, rappelez-vous. Ils avaient contracté avec cette firme qui, avec l'aide des cyber-pirates russes ou pas, ça n'a jamais été éclairci, avait quand même fait un marketing politique, mais absolument incroyable, touchant des millions d'électeurs américains, mais je n'exagère pas, c'est 61 millions les estimations, pour leur envoyer des messages extrêmement précis en fonction du fait qu'ils aient un chien, qu'ils aient une voiture ou deux, qu'ils habitent dans telle région, etc., pour les influencer en faveur de Trump. Alors, c'est sûr que les démocrates vont essayer d'avoir un coup d'avance cette fois-ci. J'espère qu'ils ne feront pas appel aux mêmes méthodes.
Alors non, et en même temps, ils vont chercher Plouffe qui a fait ses preuves sous Obama. Mais c'est comme si on allait chercher, mon Dieu, ça a marché, donc let's do it again, en fait, d'une certaine façon.
Ce qui est évident, c'est que, réseaux sociaux ou pas, le président Trump est un génie de la communication. Chaque fois qu'il trouve une insulte ou un surnom à l'un de ses adversaires, ça marche du tonnerre.
Et c'est pour ça qu'on a l'impression quand même, et y compris avec l'impeachment, qu'il y en a eu des choses depuis ces trois dernières années. Donc avant cette année présidentielle, il y a eu les histoires de murs, les gamins à la frontière qu'on abandonne quasiment. Il y a eu l'enquête russe qui est toujours pas finie. Il y a un comportement, y compris vis-à-vis des femmes, pas seulement vis-à-vis des adversaires politiques. Dans tous les sens, il y a une politique étrangère qui paraît totalement illisible et qui, semble-t-il, irrite même dans son propre camp. Et il y a même cet impeachment. Et pour autant, on a l'impression que ça lui glisse encore dessus à Donald Trump. Même l'impeachment, au fond.
Oui, l'impeachment, pour l'instant. Mais ce qui est vrai, c'est que Trump, il a été... il donne cette impression de chaos et presque de délire. Mm-hmm. Mais en réalité, il est extrêmement cohérent sur un certain nombre de sujets. Le nationalisme, la fermeture des frontières, que ce soit au commerce ou à l'immigration, l'environnement, on l'a encore vu hier avec son retrait de l'accord de Paris, il est donc très cohérent. Et sur ces sorties de route, ou toutes les insultes qu'il peut sortir, finalement, ça lui sert vis-à-vis de son électorat, parce que l'électorat populiste se sent conforté quand son leader se montre comme ça anti-establishment, anti-élite, anti-système. Ses électeurs adorent, donc ça marche.
Est-ce que c'est pour ça aussi qu'on a senti une hésitation, maintenant ils y sont, mais de la part des candidats démocrates, comme si au fond ils savent aussi que l'impeachment, ça peut être une vraie ressource électorale au fond pour Donald Trump?
Oui, parce qu'il peut se peindre en martyr.
Mais évidemment.
Alors, sur l'impeachment, faut pas oublier que c'est une procédure qui appartient au Congrès. Et donc les candidats à la présidentielle, essayent de pas
ils y vont pas trop, ils ont juste dit qu'ils étaient d'accord, grosso modo.
Oui, mais ils en parlent pas trop, parce que eux, ils essayent de faire campagne sur un vrai projet. Donc, on verra pour l'impeachment. La mise en accusation par la Chambre à la majorité simple, ça risque d'être voté. Enfin, ça va sans doute être voté. En revanche, pour que le président soit réellement renvoyé, destitué, il faut que ce soit le Sénat qui vote à une majorité des deux tiers, donc 66, il manque 20 sénateurs, pardon. Républicains, est-ce qu'ils vont trahir?
Alors,
est-ce
qu'on... Oui, alors, on en... 20, c'est beaucoup, quand même. Mais est-ce que ce côté... enfin, je sais pas, on imagine une scène dans le bureau ovale de républicains fatigués aussi, y compris de cette conduite erratique et de ce comportement. Est-ce que ça existe quand même chez les républicains? Est-ce qu'il y a une espèce de semi-fronde, sans parler de 20 sénateurs, mais est-ce qu'il y a quand même cette espèce de semi-fronde qui a accès au président Trump ou pas du tout?
Ben, jusqu'à présent, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'establishment républicain qui a été kidnappé par Trump et qui déteste Trump, c'est pas du tout leur genre de personnage, en fait, est comme sidéré. On a eu John McCain qui est mort maintenant, qui se dressait contre lui. Aujourd'hui, c'est plutôt Mitt Romney qui a pris cette relève. Mais il me semble, dans l'ensemble, être d'une couardise face à ce président qui est quand même incroyable. Alors, est-ce que... éthiquement, ils se sentiront un jour tenus de changer de camp. C'est ce qu'on va voir dans les mois qui viennent. Leur intérêt électoral n'est pas là, hein.
On verra ça dans les mois qui viennent. En effet, ça nous fera du grain à moudre. Dieu sait qu'il y en a aux États-Unis. Merci beaucoup, Laurence Lardon. Tiens, je voudrais citer quand même Trump 2020. C'est un podcast qui est abrité par Slate et qui est sur le site de l'IFRI aussi, qui est le vôtre. Et puis, je peux pas faire autrement. Je vends aussi le podcast des correspondants radiophoniques francophones. et notamment notre ami Grégory Fliss, mais pas seulement. Ça s'appelle Washington DC. Le premier épisode est sorti aussi. Il y a de quoi faire en podcast, à la radio et partout avec ce président Trump. Merci mille fois.
Le 18-20. Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
À suivre dans le 18-20, le bruit du monde. Vous verrez ce qui se passe quand des volontaires israéliens aident des Palestiniens à la récolte des olives. Le bruit du monde, la suite. Amélie Perrier au procès d'Aube Dorée.
Oui, le crépuscule d'Aube Dorée, c'est le procès fleuve du parti néo-nazi en Grèce.
Passons genre dans le monde et Julia Foyce. Oui. Julia, comment ça se passe sur le front de l'égalité en Europe?
Pas super bien. On peut pas dire qu'on se voit très très bien.
Le monde à l'envers avec Claude Guibal. Pardon Claude, bonsoir Claude. Bonsoir. Ce soir au Sahel où rien n'enraye la poussée djihadiste apparemment.
Oui, malgré la présence de presque 20 000 soldats étrangers, le djihadiste effectivement, Fabienne ne cesse de frapper.
Allez, à tout à l'heure. Tout le monde, le tour de la planète continue. Il passe par Melbourne, Australie, de Teskey Brothers. So Caught Up, c'est sur la playlist de France Inter. Arrêtez de vous moquer. Le bruit du monde, ce soir est en Palestine où la récolte des olives touche à sa fin. C'est la culture principale en Cisjordanie. Mais dans les secteurs encore occupés par Israël ou colonisés, le travail des cueilleurs, des paysans est parfois difficile. Voilà pourquoi, depuis 18 ans, l'ONG israélienne Rabbis for Human Rights, les rabbins pour les droits de l'homme, se rend dans les champs d'oliviers et ses bénévoles aident à la cueillette et tentent aussi de protéger tout cela pacifiquement. Et comment ça se passe? Eh bien, c'est pas toujours simple. Nous vous emmenons dans un champ de Bourine, c'est près de Naplouse, au nord de la Cisjordanie, avec une dizaine de volontaires. Et voici ce que ça donne. Le guide, c'est Frédéric Mettezo.
Des olives comme s'il en pleuvait. Les volontaires secouent les arbres, puis ils cueillent les olives qui tombent sur une bâche en plastique. Ils surveillent aussi la colline, car en haut, c'est la colonie juive d'Itzar, dont les habitants sont parmi les plus fanatisés de la région. Deux jours avant, ils ont incendié des arbres et tabassé un rabbin de 80 ans venu aider Mohamed, le cultivateur.
Le fait qu'il y ait des Israéliens ou des internationaux ici, ça décourage les colons de venir sur ma terre. Malheureusement, ça n'a pas suffi il y a deux jours. Mais c'est quand même une sécurité pour nous, c'est bien. Quand les colons descendent, les gens peuvent prendre des photos avec leur smartphone et montrer ce qui se passe en temps réel.
Les bénévoles sont des Américains ulcérés par la politique de Donald Trump, des Sud-Africains qui se souviennent de l'apartheid. Maria est anglaise, d'origine polonaise, c'est une habituée des lieux.
C'est la septième fois. C'est très difficile pour les Palestiniens. Je me suis dit, je dois faire quelque chose, je ne peux pas rester seulement lire, je dois les aider. Mes grands-parents étaient juifs, les parents de ma mère, la sœur et le frère de ma mère ont été tués pendant la guerre.
Pour Farida, qui habite près de Lille, c'est la première fois.
On a payé nos billets, on a payé l'hôtel, on a tout payé, ça vient de notre poche. Et c'est très important, on ne va pas en vacances, on vient ici. On parle beaucoup de la Palestine, etc., le pays le plus maltraité, mais on ne fait rien. Je suis très très émue et j'ai vu des choses extraordinairement choquantes. D'abord le feu. Et on m'en avait parlé, je l'ai vu à la télévision, etc. Mais c'est pas la même chose que quand on arrive, c'est complètement différent. Moi j'étais mais furieuse, mais la haine, mais la peine, la frustration. Parce qu'on a envie d'aider, j'ai envie de rester plus longtemps.
L'une des responsables de l'association est une Israélienne. Nava Efetz est rabbin.
Ce qui se passe ici dans les territoires occupés ne coïncide pas avec l'éthique juive, avec la morale juive. On est là en tant que religieux, en tant que juif religieux. On n'est pas d'accord avec ce qui se passe ici. Violation des droits humains et de l'image divine.
Et ces colons, qui sont juifs également, et sans doute pour certains religieux, qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Ah, pour eux, on est des traîtres. Alors qu'ils ne comprennent pas qu'il y a ici une asymétrie.
Une asymétrie bien visible quand une quinzaine de militaires israéliens viennent expulser le cultivateur et les bénévoles.
Alors là, on vient de recevoir un décret du colonel qui est responsable sur toute cette région, qui décide que ce territoire-là, qui est donc la terre privée de Muhammad, est un territoire militaire fermé. Et donc, on nous chasse.
Soldats et volontaires se surveillent, ils se prennent réciproquement en photo. Aucune violence, mais une grande tension. Shlomi, la soixantaine, est un bénévole israélien. Plus jeune, il a fait l'armée et il regarde tristement ses compatriotes.
It is depressing.
C'est déprimant, mais malheureusement, la plupart de ces jeunes gens se font laver le cerveau. Et ils font ce qu'on leur dit de faire. On connaît très bien l'histoire, quand des gens obéissent aux ordres, sans penser, sans réfléchir. C'est important d'être avec les victimes, avec les faibles. Et ce sont eux des faibles, pas nous. Les Palestiniens ne peuvent faire face aux colons, à la police et à l'armée, tout seuls. C'est une tragédie. Notre tragédie, pas seulement celle des Palestiniens. C'est aussi une tragédie israélienne.
L'expulsion s'est déroulée sous l'œil goguenard d'un colon qui avait garé son 4x4 juste à côté des véhicules militaires. Mais cette entente d'un jour n'a pas empêché d'autres colons d'attaquer des soldats israéliens quelques jours plus tard. «
Frédéric Mettezeau dans les Champs d'Oliviers. Merci beaucoup. Le bruit du monde quand il passe sous les radars, qu'est-ce que ça donne ? Et ben voilà, ça donne ça, c'est pas toujours agréable à entendre, Amélie Perrier, c'est le moins qu'on puisse dire, mais voici un procès fleuve qui en est quasiment à son épilogue, nous sommes en Grèce.
Le procès d'Aube Dorée, le parti néo-nazi grec, vous entendez les militants là derrière moi. Ce procès a débuté en avril 2015, il y a 4 ans et demi, et pour la première fois le tribunal s'apprête à entendre demain le fondateur et dirigeant d'Aube Dorée. Il s'appelle Nikolaos Michaloliakos.
Κύριοι και κυρίες βουλευτές, με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Βούτση, μας χωρίζει χάος πολιτικό και ιδεολογικό, αλλά πράγματι έχει κοινές αρχές.
Alors voici celui que l'on surnomme le fureur grec à la tribune de la Voulie, le Parlement à Athènes ici en janvier dernier. Le sexagénaire, sa colère, ses emportements et les accusations de constitution, d'organisation criminelle dont il va répondre demain à la barre. Près de 70 membres ou ex-membres d'Aube Dorée sont poursuivis pour le meurtre d'un rappeur antifasciste, Pavlos Fissas. Il avait 34 ans, il a été poignardé par un militant néo-nazi en 2013 près de la capitale grecque. Ils comparaissent aussi, ces militants, pour le meurtre de 4 pêcheurs égyptiens en 2012 et l'attaque de syndicalistes communistes en 2013. Selon le chef, donc, Nikos Michaloliakos, ce procès est un complot politique. Les accusés risquent des peines de 5 à 20 ans de prison et le parti, lui, risque de disparaître. Aube Dorée, fondée dans les années 80 après la chute des colonels, Michaloliakos revendique sa proximité avec le dictateur défunt Georges Papadopoulos. Demain, pour la comparution du dirigeant, les organisations de gauche, les défenseurs des droits de l'homme et les syndicats appellent à manifester devant la cour d'assises. Le procès doit s'achever en début d'année prochaine et il semble avoir déjà condamné le parti dans l'opinion publique au moins. Lors des élections législatives de juillet dernier, les néo-nazis, qui avaient 18 députés à la Voulie, n'ont décroché aucun siège, plus d'élus et de moins en moins d'encartés. L'Aube Dorée vit donc son crépuscule.
La forêt amazonienne brûle, Amélie, ça évidemment on en a déjà parlé, mais les populations disparaissent aussi à petit feu.
On a appris la mort de Paolo Paolino, un gardien de la forêt. Il appartenait à la tribu amazonienne Guararara. Il est tombé dans une embuscade tendue par des trafiquants de bois dans l'état de Maranhão. C'est dans le nord-est du Brésil. Écoutez la voix de Paolo. En février dernier, il a accordé une interview à la fondation Reuters en pleine forêt, plume autour de la tête et lunettes de soleil sur les yeux. À côté du village, il y a un homme blanc qui veut me tuer, dit-il. Il y a un mois, il a menacé de me tuer parce que je défends la forêt. Il n'arrête pas les trafiquants, mais ils veulent arrêter les gardiens. Je ne comprends pas pourquoi. On se sent vraiment seul ici, sans aide. On a besoin de soutien dans cette région. Voilà Paolo Paolino qui faisait partie des gardiens de la forêt. Les gardiens transmettent en fait les données GPS des zones où ils trouvent des arbres coupés. Ils aident les pompiers à éteindre les incendies. Le ministre de la Justice, Sergio Moro, assure que tout sera fait pour punir les meurtriers de Paolo. Mais selon les ONG, Greenpeace par exemple, l'État brésilien est tout aussi responsable quand il se refuse à protéger les territoires indigènes. Un génocide institutionnalisé, dénoncent les défenseurs des peuples indigènes.
Allez Amélie, si nous terminons très cher, par une tasse de thé.
Oui, l'été, ça énerve un petit peu. Alors, je vous propose plutôt du rooibos, Fabienne. C'est sans théine, c'est très bon, c'est antioxydant, c'est bon pour ce que vous avez. C'est comme un thé rouge, c'est une plante d'Afrique du Sud, en fait, désormais bu partout sur la planète. C'est un thé qui est bon pour votre corps, nous dit ici ce représentant de la communauté San, Joram Uzeb, car ça détoxifie et ça vous déstresse, ça vous rend heureux, dit-il. Joram Uzeb, il est représentant d'une communauté indigène, car là aussi il est question de leur protection. L'industrie du rooibos annonce qu'elle va reverser une partie de ses revenus aux Khoi et aux San, les indigènes, à l'origine de l'exploitation du rooibos. Ils sont les premiers habitants d'Afrique du Sud, les premiers propriétaires de la connaissance traditionnelle sur l'utilisation du rooibos, nous dit aujourd'hui la ministre de l'Environnement. Alors ils vont recevoir 1,5% des sommes gagnées par les cultivateurs de rooibos. Ça représente environ 700 000 euros par an. 15 millions de kilos sont récoltés chaque année dans les seules régions au monde où il pousse, rooibos, les provinces du Cap Occidental et du Northern Cape, c'est à l'ouest de l'Afrique du Sud.
Eh ben écoutez, moi qui déteste le thé.
Ah mais je vous assure, c'est excellent.
Eh ben,
goûtez.
Ah ben, amenez-en la prochaine fois. Merci beaucoup Amélie Perrier, le bruit du monde sous les radars. Évidemment, c'est tous les jours dans Un jour dans le monde. Voici Martha and the Muffins, Ecobitch sur France Inter. Muffin, Ekovitch, ça s'appelle, c'est sur France Inter, mesdames et mesdames, et autres gens, Julia Foy, c'est là.
France Inter. Un jour dans le monde.
Et chaque semaine, Julia, vous nous donnez des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète LGBT. On commence par le gros mot de la semaine.
Salope! Voilà. Terme qu'un élu démocrate de Boston veut pouvoir interdire et sanctionner d'une amende de $150 plus 6 mois de prison en cas de récidive. On dit bitch en anglais. Mais dans les deux langues, sans vouloir être parano, hein, Fabienne, ça n'est pas tout à fait un compliment. Lui dénonce le sexisme du vocabulaire. Ses adversaires républicains sont vent debout, au contraire, au nom de la sacro-sainte liberté d'expression américaine. Un peu comme quand chez nous, on entend qu'à force, on ne pourra plus rien dire, ni salope dans la rue, ni enculé dans les stades. Alors que bon, ça va, on se détend, hein, c'est de l'humour, les bitches, c'est du potache, les enculé. C'est fou comme c'est toujours au même qu'on demande d'avoir de l'humour. Hein. Vous en connaissez, vous, Fabienne, une injure qui cible spécifiquement les hommes hétéros blancs? Eh ben non, normal, il n'y en a pas. Ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Donc l'homme hétéro blanc, on ne touche pas, on ne se moque pas, on n'attaque pas, que ce soit rigolo ou pas.
Voilà, et comme tout est toujours une...
Je savais,
pouf, pouf. Et comme tout est toujours une question de langue, dans l'ordre, allez-y, je vous en
oui.
prie.
Et bon, on va parler emoji. Vous savez, ces petits symboles qui ponctuent nos SMS et qui ont intégré depuis longtemps nos textos comme un langage à part entière. Eh bien, dans sa dernière mise à jour pour iPhone, Apple a intégré toute une série de caractères qui vont permettre de rendre compte d'une société plus inclusive et plus ouverte. Apparaissent notamment des couples mixtes et des couples homosexuels. Le handicap y a désormais droit de citer aussi avec des symboles comme le fauteuil ou la canne blanche. Et puis ça y est, la petite goutte de sang pour évoquer les menstruations existe. Et ça, c'était une revendication féministe, que les règles ne soient plus taboues. On a aussi, dans cette nouvelle version, un emoji oignon et un emoji huître. Mais on va dire que ça, c'est pas vraiment
notre sujet. Ça n'a strictement rien à voir. En revanche, l'Europe s'engage clairement contre le sexisme. Et ça, c'est beau.
Canon. Canon, Fabienne, surtout quand on sait de quoi on parle et c'était pas gagné. Hein. Ça fait seulement quelques mois que les 47 pays membres du Conseil de l'Europe sont d'accord sur ce qu'est le sexisme. Une définition commune a été adoptée au printemps dernier. C'est le minimum, évidemment, si on veut pouvoir lutter contre de manière coordonnée. Mais ça ne fait pas tout. Loin de là, d'où, entre autres, cette petite vidéo mise en ligne il y a quelques semaines sur le site de l'institution. Comme quoi, parfois, mieux vaut tout reprendre à la base de la base de la base. Hein.
Le sexisme est partout. Il existe dans nos paroles, dans les mots que nous écrivons, dans les images que nous fabriquons et dans nos actes. Il touche davantage les femmes que les hommes, et ce, de façon différente. Il nous influence depuis l'enfance, quand les garçons sont encouragés à courir, à sauter et à être actifs, alors que les filles sont encouragées à être passives, agréables et à adopter un comportement gracieux.
agréable mm-hmm. et gracieux. C'est joli, c'est bien dit. À l'image, c'est tout mon portrait, graphique. Dire, quand même. Exactement. Je pense qu'ils ont pensé à vous en l'écrivant. C'est rythmé, c'est léché. La réalité est nettement moins rutilante en Europe. L'égalité des genres progresse, mais à la vitesse d'un escargot. C'est la conclusion d'un rapport très officiel sur le sujet. Enquêtant auprès des 28, l'Institut européen de l'égalité entre les femmes et les hommes a brassé un nombre impressionnant d'indicateurs. Et il en ressort un très net. Bien mieux faire. La différence de salaire, 20% de moins en moyenne pour les femmes, 36% quand elles se mettent à vivre en couple, et elles perdent encore 20% de revenus 5 ans après la naissance du premier enfant. Ce, notamment parce que 80% des Européennes s'attellent aux tâches domestiques tous les jours, contre 34% des hommes. Pour la plupart, note le rapport, maternité rime avec renoncement à l'emploi faute de solutions de garde valables. Quant à celles qui travaillent, bien ça c'est un sondage IFOP conduit simultanément en France, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne et en Allemagne. Elles sont une sur cinq à avoir subi au cours de l'année écoulée au moins une forme de violence sexuelle ou sexiste au bureau. Ça va du regard concupiscent au harcèlement caractérisé. D'ailleurs, j'en profite pour glisser un petit mot à nos amis de l'IFOP. En fait, quand vous parlez de rapport sexuel contraint, c'est tout simple. Ça s'appelle un viol, quitte à être à peu près clair sur les définitions. Bref, sur la parité en politique.
Ça y est, elle est en grève.
Bah oui,
elle est en grève.
Ça fait 3 heures que je travaille gratos, Fabienne, faut pas exagérer non plus. Compte tenu des écarts salariaux entre les femmes et les hommes, à partir du 5 novembre à 16h47, chaque année, on travaille gratuitement, vous, Claude et moi. Alors c'est peut-être ni agréable ni gracieux, mais je vais m'en tenir là.
Voilà, bon, sachant qu'il est 18h55.
Fabienne Synthèse, le 18-20.
Le monde à l'envers, c'est Claude Guibal ce soir. Claude Florence Parly, la ministre des Armées, est au Sahel depuis hier. Le Tchad, le Burkina Faso, le Mali. Le Sahel où sont déployés les 4500 soldats français de la Barkhane, 13 000 casques bleus de la MINUSMA, aussi de la mission des Nations Unies au Mali. Et le Sahel où pourtant les attaques djihadistes se multiplient, de plus en plus fréquentes, de plus en plus sanglantes. Elles gagnent du terrain malgré la présence de ces armées internationales. Alors pourquoi ce constat d'impuissance? C'est le sujet de votre monde à l'envers ce soir, Claude, vous qui rentrez précisément du Burkina Faso.
Oui, le Burkina Faso où en 3 jours, 14 personnes sont mortes, dont 5 soldats et un député. Et ces 3 derniers jours au Sahel, Fabienne, ce sont aussi plus de 55 morts au Mali, dont un soldat français et au moins 49 militaires maliens tués au cours d'une seule attaque revendiquée par l'État islamique. Et là, une fois de plus, je ne parle que de ces 3 derniers jours. Depuis l'offensive djihadiste au nord du Mali en 2012, eh bien, le terrorisme n'a pas cessé de gagner toute l'Afrique de l'Ouest. Alors, on se souvient de l'opération Serval, elle a certes été utile, elle a permis de libérer les villes tenues par les terroristes au nord du Mali, elle a surtout empêché qu'ils n'atteignent Bamako, mais ça, ce répit, il n'a été que de courte durée, les groupes, eux, se sont éparpillés, les alliances se sont récomposées, et puis il y a cette masse phénoménale d'armes qui circulent dans toute cette région, depuis la guerre en Libye et la chute de Kadhafi.
La stratégie des djihadistes aussi, Claude, semble avoir changé.
En fait, les djihadistes, ils sont tous, enfin, imbéciles, ils ont vraiment appris de leurs erreurs. Ils ont compris qu'occuper des villes, eh bien, c'était trop lourd, c'était trop compliqué. Ils ont compris que face à une armée conventionnelle, ils ne faisaient pas le poids. Alors, ils ont adopté une nouvelle tactique en cherchant à créer partout de l'instabilité. Ils nouent donc des alliances entre eux. Et puis surtout, ils attisent les conflits locaux. Ils vont jouer sur les frustrations des populations locales, oubliées, méprisées des États centraux, délaissées par le développement. Ils instrumentalisent les conflits intercommunautaires. Ils attaquent une communauté, une ethnie pour provoquer un cycle sanglant de représailles.
Et on l'a vu avec cette tuerie au Mali, c'était en mars dernier.
Oui, 160 villageois tués, essentiellement des Peuls, c'était à Ogassogou. Ils ont été vraisemblablement tués par une milice d'autodéfense d'une ethnie rivale, les Dogons. Et ça, on a vu exactement la même chose en janvier au Burkina Faso, à Yergou, avec officiellement 49 morts et probablement bien plus. Les Peuls, ces nomades musulmans éleveurs, sont du coup de plus en plus amalgamés aux terroristes qui cherchent à les recruter, à les séduire en jouant justement de leur sentiment d'ostracisation. Alors du coup, devant l'impuissance des armées nationales et internationales, eh bien les populations, elles font quoi? Elles veulent prendre en main leur sécurité et donc se constituer en milices locales. Et là, le chaos devient totalement ingérable.
Donc comment on fait alors pour stopper cette progression?
Les djihadistes, en fait, eux, Fabienne, y jouent sur du velours. Ils s'attaquent à toutes les failles de ces États qui ne voient la lutte contre le djihadisme qu'à travers la réponse sécuritaire. Or, face à un ennemi invisible comme le terroriste, il ne peut pas y avoir de solution uniquement sécuritaire. On a besoin de la population. Et pour ça, il faut qu'elle se sente connectée à son État. Elle a besoin de le voir, elle a besoin de bénéficier métiers des services de l'État, de l'éducation, de la santé, bref, du développement. Or, ce développement, il était englouti par la mauvaise gouvernance et la corruption. Et cela, ça crée évidemment un boulevard pour les djihadistes.
Dans ce contexte d'impuissance, Claude, comment est perçue la présence de l'armée française? Il y a eu le mois dernier des manifestations contre la présence des soldats à Ouagadougou, notamment.
Oui, parce que, regardez, le Burkina Faso, notamment, sert de base aux forces spéciales françaises de l'opération Sabre. Et au Burkina, les gens se demandent pourquoi cette armée, qui a l'air si équipée, si entraînée, n'est pas capable, à elle toute seule, de régler ce problème. Alors, les théories anticolonialistes ressortent. On dit que l'armée française a en fait une armée d'occupation présente uniquement pour préserver les intérêts français, notamment en termes d'accès aux ressources minières. On rappelle son soutien à des régimes eux-mêmes conspués, comme celui de Blaise Compaoré, renversé par la rue en 2014 après 27 ans de règne, ce qui explique par exemple pourquoi le nouveau pouvoir en place au Burkina hésite à faire officiellement appel à la France pour appuyer massivement l'armée burkinabée sur le terrain. Une équation, je vous le disais Fabienne, infernale à résoudre dans l'urgence sécuritaire.
Claude Guibal et Le Monde à l'envers ce soir. Merci beaucoup. Le 18-20, la suite, c'est le téléphone sonne. Jean-Paul Delevoye ce soir et toutes vos questions sur la retraite. On y vient juste après le journal de Pierre Veil. Ne bougez pas.